Alors, pour ceux qui suivent nos chroniques, il y a quelques semaines de cela, on vous parlait de ces symptômes qu'on voit venir. La santé financière, c'est important, c'est ce qui est le plus important dans la vie après la santé tout court, parce que ça génère du stress, ça génère de l'angoisse, souvent ça peut générer des disputes dans la famille. Bon, alors donc, avec Éric Pronovost, on va revenir sur vos finances. Allô, Éric.
Bonjour, Robert.
Il est chez Roy Métivier Roberge. Éric, là, c'est ça. Donc, on a diagnostiqué qu'on a des problèmes. Et là, on va commencer à opérer le patient, si on veut.
D'accord.
Il y en a qui hésitent à aller vous consulter ou qui ne veulent pas regarder à l'intérieur de leur propre compte de banque parce qu'ils ont peur de tout perdre. OK? Si je vais voir quelqu'un pour m'aider, je vais finalement tout perdre, je vais me retrouver sur la paille. Je te donne l'exemple de celui qui, tout au cours de sa vie, a économisé de l'argent dans des CELI, des REER, de l'argent qui est à l'abri de l'impôt. Lorsque tu restructures tes affaires, OK, qu'est-ce que tu laisses sur la table et qu'est-ce que tu vas garder pour toi?
Bon. Il y a deux alternatives. Il y a la faillite et la proposition. Dans le cas de la proposition, le débiteur, la personne en difficulté financière, va offrir un règlement dans lequel elle va chercher à indemniser ses créanciers et par le fait même va garder certains biens. Dans le cadre d'une faillite, il y a certains biens qui sont carrément saisissables par le syndic au bénéfice des créanciers et d'autres qui ne le sont pas. Au niveau de l'épargne, les REER ne sont pas saisissables. Ils sont insaisissables, sauf les cotisations des 12 derniers mois. Alors, le pactole ou le patrimoine que vous avez accumulé dans les 5, 10 ou 15 dernières années, il y a de très fortes chances qu'il soit intouchable. Au niveau d'un CRI, la même chose, le fonds de pension, encore plus, c'est de l'argent qui ne vous appartient pas, mais qui vous sera versé au moment de votre retraite. Donc, il y a un propriétaire, il y a un fiduciaire qui gère le fonds de pension. Pour ce qui est du CELI, il y a certaines positions de conseiller juridique à l'effet qu'un CELI, c'est un régime enregistré et par conséquent, il rencontrerait les mêmes critères qu'un REER et qu'il pourrait être intouchable également. Là, c'est une position un peu plus sexée.
OK, pour le CELI, OK?
Oui.
Le CELI, c'est un compte de banque.
Oui.
Les intérêts sont à l'abri de l'impôt. C'est comme ça que ça fonctionne.
Tout à fait.
Et vous pouvez déposer là-dedans un montant X par année qui ne doit pas dépasser tel montant.
Exact.
Quelqu'un déciderait, se voit en difficulté financière, commencer à remplir ça, les CELI, puis les REER, puis pour éventuellement te libérer de paiements que tu pourrais faire au fisc. Ça, je suis convaincu qu'il doit aller à 100 000 à l'heure.
Pour le fisc, il n'y a aucun problème. Dans le sens que si vous allez déposer une procédure en vertu de la loi sur la faillite dans les 12 prochains mois, mais les versements que vous avez faits ou les transferts que vous avez faits dans cette période-là sont à risque. C'est-à-dire que le syndic ou les créanciers pourraient demander à ce que les sommes soient rapatriées et distribuées aux créanciers.
OK. L'autre affaire que je me demandais eu égard à ça, lorsque tu vas rencontrer toi-même, Éric, puis un de ta gang, puis là, tu dis, moi, voici, là, OK? Oui, j'ai des dettes, je le reconnais, je suis en difficulté, aidez-moi, s'il vous plaît. Cependant, vous invite à m'aider, mais à m'aider intelligemment. Moi, là, j'ai des dettes d'honneur. Mon beau-père m'a prêté 75 000 $ pour que je rafraîchisse mon bateau que je viens tout juste de m'acheter. C'est une dette d'honneur. Si jamais je ne le rembourse pas, je vais mettre la chicane dans la famille, donc lui avant les autres. Ça se peut-tu, ça?
Pas vraiment. Mais je comprends que vous allez peut-être souscrire une assurance-vie si votre beau-père est relativement violent pour vos proches, mais autrement, non. Les créanciers doivent être traités sur un pied d'égalité pour ceux qui ont des rangs identiques. Pour ce qui est des dettes dites d'honneur, parce que c'est un proche-parent, c'est un grand ami, c'est un prêteur usurier.
Ouais. Mais qu'est-ce qui va déterminer leur rang? Des gens qui vont avoir droit au chapitre avant les autres?
Bon, la loi prévoit que les créanciers qui détiennent un droit comme une hypothèque, un crédit bail, sont payés à même les biens qu'ils détiennent en garantie en priorité. Ensuite, il y a des créanciers dits privilégiés, le salaire, le locateur, et ainsi de suite. Et ensuite, tous les autres créanciers sont payés au prorata. Dans le cas de dette d'honneur, ce qu'on voit plus souvent qu'autrement, c'est à la fin, après la libération de l'individu, certains vont prendre de leur propre chef la décision de dire « Robert, je te devais des sous, merci de m'avoir fait confiance, j'ai fait faillite, mais là, je décide de te rembourser. Je suis libéré de ma faillite et pour, dans certains cas, je vais rembourser la chose. On se doute forcément qu'il y a des dettes au niveau de proches parents qui vont être remboursées de la sorte bien plus tard.
Parce que des billets, on peut signer une reconnaissance de dette. Ça, dans la faillite, ça persiste?
Ça persiste.
Ou ça subsiste?
Ça va, ben, en fait, ça subsiste. Ça va être encadré dans la faillite. Une dette, c'est une dette, qu'elle soit d'un proche parent, qu'elle soit auprès d'un banquier. La loi dit, ben, vous allez être libéré de cette dette-là, sujet à certaines conditions. Vous devez vous comporter de telle façon, et ainsi de suite. Mais c'est une dette qui va être transigée par le syndic, soit qu'ils recevront zéro ou ils recevront un dividende de quelques pourcents par dollar de dette. Mais autrement, vous ne pouvez pas, durant votre faillite ou avant, privilégier un créancier. La loi dit non, vous êtes tous égaux et vous devez être traités équitablement. Par la suite, ce qui peut se produire lorsque des gens décident de leur propre chef d'acquitter certaines dettes, je n'ai aucun recours contre ça.
Éric, en terminant, quelqu'un qui décide là, de faire le ménage dans sa vie puis de régler ses affaires, à partir du moment où il embarque dans le processus jusqu'à la fin, il peut se passer combien de temps?
Tout dépendant si c'est une première faillite, une deuxième ou une troisième, mais allons-y pour la première. C'est un processus qui va s'étirer sur 9 mois, à moins qu'un créancier décide de s'opposer ou le syndic de s'opposer à la libération parce que le comportement au préalable a été litigieux. Où vous avez eu du revenu qui dépasse une certaine norme, là, on pourra rajouter un 12 mois sur l'administration du dossier. Mais essentiellement, pour ce qui touche un individu, on parle de 9 mois, peut-être 21 pour une première faillite.
OK. Et on se le dit, là, c'est toujours la solution extrême.
Oui.
Parce qu'il y a bien d'autres solutions avant ça.
La proposition, l'arrangement à l'amiable.
Pour le découvrir, Roy Métivier-Roberge, on te passe un petit coup de fil.
Merci.
Il y a un beau site web, d'ailleurs, que les gens peuvent consulter pour avoir davantage d'informations là-dessus.